Super. Merci beaucoup, Paul. Je vous invite, avant de commencer, à incliner nos têtes dans la prière. Père, oui, nous venons de le chanter, nous te prions afin que tu nous sondes. Parle ton esprit par le biais de ta parole devant laquelle nous acceptons de nous exposer à présent comme une lumière qui vient dénoncer les choses qui sont encore dans l'ombre et nous aider à être de plus en plus semblables à celui qui est en image parfaite, à savoir Jésus-Christ. Prépare donc nos cœurs et merci d'équiper ton serviteur afin que je puisse être un porte-parole efficace et que l'on voie ta gloire, et que l'on te glorifie et te remercie pour toutes les facettes de ta personne. Et c'est dans le précieux nom de Jésus que j'ose m'approcher de toi qui es un Dieu saint et redoutable. Amen. Donc bonjour, vous l'avez entendu, je m'appelle Nathan, si vous voulez vraiment le prononcer à la malgache, le nom de famille, je vous l'épargne car il est un peu lent. Je suis de Marseille, une petite heure d'ici, et là-bas j'exerce en tant qu'architecte dans un petit cabinet qui s'installe dans la région de Aix-en-Provence. Et ça fait une petite, une quinzaine d'années que je suis là dans la région par ici, et j'ai fait ma formation sur Marseille même. Et je vais à l'église, je ne sais pas si certains connaissent ici, Paul et Luan, forcément vous connaissez quelques amis là-bas, mais du CEP de Marseille-Saint-Loup, qui est une église un peu plus grande qu'ici, mais un tout petit peu plus grande, mais qui partage les mêmes valeurs familiales et l'envie de servir le Seigneur là où Dieu le place. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, retenez bien ce détail parce que ça va être important pour la suite tout à l'heure de cette prédication. Et aujourd'hui, j'aimerais déjà vous remercier de l'invitation, de la confiance que vous faites pour être un porte-parole de cela. Et justement, porte-parole, c'est un métier qui est extrêmement en vogue dans les périodes de guerre. Ici, je vous ai mis à l'écran une image de Sennacherib, enfin, une porte-parole de Sennacherib. Pour ceux qui ne seraient pas habitués avec l'histoire juive un peu, c'était un grand empereur qui venait attaquer donc Jérusalem. Mais préalablement à cela, il envoie un porte-parole. Il dit, va aller négocier la paix afin qu'ils se rendent et que j'évite de raser toute la ville avec toute mon armée et ce blitzkrieg de l'Empire en gros. Et le porte-parole vient en disant, écoutez, mon empereur m'envoie afin que vous vous rendiez et que nous ne vous exterminions pas. Et donc c'est un porte-parole, c'est un métier qui marchait déjà bien à l'époque. Ça marchait aussi à l'époque de la guerre, en 39-45. Ici, je ne sais pas si on le voit bien, mais c'est le général Pétain qui, malheureusement, doit signer avec une coalition allemande pour qu'il n'attaque pas le pays et qu'une reste du pays reste un peu libre, la partie sud notamment. Et donc, là encore, le porte-parole, malgré lui, a dû signer une défaite, mais a préservé la vie de plusieurs personnes et a évité que cette machine de guerre soit en marche vers tout un peuple d'innocents. Et encore plus récemment encore, vous avez peut-être vu ça dans les journaux récemment, les Russes et les Ukrainiens se sont retrouvés dans une terre un peu, on va dire, neutre, et ont essayé de négocier une forme de paix, à laquelle ils ne sont pas encore arrivés, certes, mais vous avez vu que ce ne sont pas les deux présidents qui sont allés, c'est qu'ils envoyaient des porte-paroles. Ils envoyaient des gens afin de les représenter et de porter ce à quoi ils pensent. Mais pour que un porte-parole soit utile, il faut deux conditions au moins. Et c'est les deux conditions que j'aimerais exposer aujourd'hui. D'abord, il faudrait que les deux parties soient d'accord de discuter. Il faut que l'un soit disposé à écouter l'autre et inversement. Première condition. Si ça ne sert à rien d'envoyer un porte-parole pour toquer à la porte de quelqu'un qui ne va pas ouvrir. Première condition. Mais deuxième condition, il faut aussi que le porte-parole soit un représentant légitime de ceux qui envoient. En gros, techniquement, ça sert à rien qu'un malgache aujourd'hui aille en Russie et dise « Bonjour, monsieur Poutine, je viens négocier la paix pour le camp de ce pays-là. » Mais vous ne le représentez même pas. Donc ça ne sert strictement à rien. Donc deux conditions. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une guerre qui est encore plus durable que toutes celles dont j'ai parlé avant. C'est la guerre qui oppose Dieu, cet empire, cet empereur qui peut tout écraser sur son passage, ce roi puissant et un royaume qui est rebelle, qui s'appelle le royaume humain. Un royaume où les personnes, depuis bien longtemps, dès les premiers habitants de ce royaume, ont dit, non, nous ne voulons pas fonctionner avec toi. Nous te déclarons la guerre et nous nous opposons à ton règne. Mais Dieu, il connaît sa puissance. Dieu sait que d'un claquement de doigts, il pourrait les exterminer, mais il prend le temps lui aussi. Il envoie aussi un porte-parole afin que ce peuple-là ne soit pas détruit tout de suite. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui via le passage que j'ai intitulé le porte-parole inutile, parce que vous verrez que dans ce passage, les deux conditions ne sont pas réunies en réalité. Et Dieu envoie quand même ce porte-parole, et je vous invite à lire, ouvrir vos Bibles dans Ézéchiel, le chapitre 2, et on va lire jusqu'au chapitre 3, le verset 3. Vous me faites signe dès que tout le monde, là, et ça sera affiché ici, je ne sais pas combien ça sera visible, donc n'hésitez pas à prendre vos Bibles, prendre aussi peut-être dans la langue dans laquelle vous êtes le plus à l'aise, et on va lire ça ensemble. Petite resituation, Ézéchiel était un prophète qui, on va dire, a exercé son ministère un peu entre le premier exil, lorsqu'il y a eu des premiers déportés en Israël, vers la Babylone, et un deuxième exil beaucoup plus lointain, où le roi, il a dit, allez, on embarque tout le monde dans les vires de leur pays. Et donc lui, il exerçait à ce moment-là, et on va tout de suite lire ici, parmi les premiers chapitres, que certaines Bibles intitulent « L'appel d'Ézéchiel ». Il me dit, « Fils d'homme, tiens-toi debout, car je vais te parler. » Et dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir debout. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, « Fils d'homme, je t'envoie vers les Israélites, vers cette foule de rebelles qui se sont révoltés contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs ancêtres se sont soulevés contre moi. C'est vers ces gens, à la tête dure et au cœur insensible, que j'en t'envoie, pour que tu leur dises, « Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. » Alors, soit qu'ils écoutent, soit qu'ils refusent d'écouter, car c'est une communauté rebelle, ils sauront du moins qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Quant à toi, fils d'homme, ne les crains pas. Ne crains pas leurs paroles, bien que tu sois au milieu d'orties et de ronces et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leurs paroles, ne tremble pas devant eux, car c'est une communauté rebelle. Tu leur transmettras donc mes paroles, soit qu'ils écoutent, soit qu'ils refusent d'écouter à cause de leur entêtement. Et toi, fils d'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas toi-même rebelle comme cette communauté rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donne. Je regardais et je vis une main tendue vers moi qui tenait un livre en forme de rouleau. Elle le déroula devant moi. Il était couvert d'inscriptions au recto et au verso. C'était des plaintes, des lamentations et des cris de malheur. Celui qui me parlait me dit, « Fils d'homme, mange ce qui t'est présenté. Avale ce rouleau, puis va parler à la communauté d'Israël. » J'ouvris la bouche et il me fit manger le rouleau. Puis il me dit, « Fils d'homme, nourris ton corps et remplis ton ventre de ce que je te donne. » Je le mangeai donc et dans ma bouche il fut doux comme du miel. C'est la fin de la parole que j'ai lue ici, et on va essayer de le commenter en essayant de se poser la question, comment Dieu va réussir à parler et essayer de se réconcilier avec des gens qui ne veulent pas du tout de lui. C'est pour ça que je parle dans un premier temps de porte-parole qui exercent dans des pourparlers totalement inutiles. Pourparlers inutiles parce que je ne sais pas si vous aviez constaté, il y a une somme de mots qui nous parlent de rébellion dans ce passage. J'ai juste relevé ici, mais si vous regardez la Bible et vous la replacez dans son contexte, Dieu il est un peu lourd. Il fait comprendre que c'est une foule de rebelles, de gens révoltés contre moi, soulevés contre moi, des gens à la tête dure, au cœur insensible, une communauté rebelle, et ils parlent de leur entêtement aussi, pour dire, en face de Dieu, c'est un mur. Je ne sais pas si vous avez essayé de parler à un mur. On dit souvent que les murs ont des oreilles, mais je vous assure qu'ils ne répondent pas.
C'est comme ça.
Tu leur parles, mais le mur ne répond pas. En face, c'est le silence, c'est le vide. Voilà, ici, on a un personnage qui essaie de discuter avec un mur en briques, mais normalement, s'il est normalement constitué, le mur n'est pas supposé lui répondre. Et c'est un peu comme si Dieu faisait... J'ai fait une fois du babysitting, je vous avais dit que j'ai pas d'enfants, mais parfois, des couples d'amis dans l'église m'appellent pour me dire, je vais en faire une soirée en couple, est-ce que tu peux garder nos enfants? Sans souci, c'était un enfant qui devait avoir 5 ou 6 mois, je pense. Donc du coup, très bien, le soir, il a dit, t'inquiète pas, normalement, une fois qu'il est couché, il ne se réveille pas, et puis tu seras tranquille. Erreur, il s'est réveillé. Le problème, c'est qu'à 6 mois, un enfant ne comprend pas. Moi, j'aurais bien aimé raisonner avec lui en disant, ok, explique-moi, pourquoi est-ce que tu pleures? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que tu ne pleures pas? Donc, il était là à côté de moi, et c'est très, très, très frustrant. Parce que tu as envie de te réconcilier avec lui, tu n'as pas envie qu'il continue à pleurer, parce que ça te casse les oreilles, et je pense que lui-même essaie d'exprimer quelque chose, mais on parlait juste pas le même langage. Et donc, cet enfant-là, pendant une bonne heure, sincèrement, ça a été un peu poussif comme ça, et puis à la fin, je dois admettre, je l'ai mis devant un écran, et puis il s'est calmé tout de suite. Pardon, ne reproduisez pas cette technique-là, mais en tout cas, ça me montre que c'est très frustrant quand tu es une personne et que en face de toi, quand tu veux établir un dialogue, tu te retrouves face à un mur, face à quelqu'un qui ne comprend pas et qui est totalement insensible à ce que tu veux faire. Et c'est exactement le cas dans lequel Dieu se retrouve. Il est face à un peuple qui refuse de l'écouter, qui est rebelle, qui a la tête totalement dure et entêtée. Ça nous dit quand même une grande réalité sur Dieu là. C'est que Dieu, c'est un Dieu extrêmement patient. Je ne sais pas à quel moment est-ce que vous auriez flanché, vous, en disant, oh, ça y est, sincèrement, j'ai essayé, maintenant ça suffit, j'en ai assez fait. Et d'ailleurs, on le voit parce qu'il le déclare un peu plus loin, dans Ézéchiel, où Dieu, il montre que non seulement il se dit, bon, ça, je les tolère un peu. Non, Ézéchiel 33, 11, il dit, aussi vrai que je suis vivant, dit l'Éternel, je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant. Je désire qu'il abandonne sa conduite et qu'il vive. Détournez-vous! Détournez-vous donc de votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, gens d'Israël? Donc vous sentez le cœur de Dieu là? Un Dieu qui n'est pas juste à tolérer, ou se dire, ok, bon, vous ne voulez pas de moi, mais je vais continuer ma vie à côté. Il est en recherche perpétuelle de ce peuple qui se détourne de lui, et ça, depuis le moment déjà où il les a sauvés d'Égypte. C'est là-dedans, il y a un petit souci? Bon, pas de souci, vous me suivez jusque-là? On est en train de, la première partie, on est en train de parler d'un porte-parole, Ézéchiel, qui essaie de parler à des gens qui ne veulent pas du tout l'écouter. Et je ne sais pas, je ne connais pas ici votre arrière-plan. Vous êtes peut-être chrétien, peut-être que vous êtes athée, que vous ne croyez en rien du tout, peut-être même que vous êtes totalement rebelle à Dieu. C'est possible, et parfois pour des raisons qu'on peut estimer légitimes, parce que la vie vous a frappé, parce que vous avez eu une suite d'événements pas faciles, mais sachez qu'en face, Dieu est un empereur qui, à un moment donné, va gagner. On peut se rebeller contre lui toute la vie ici-bas, mais à la fin, c'est lui qui va gagner. Mais aujourd'hui est un temps de grâce où Dieu dit, je ne veux pas que tu meurs. Parlons. Venons discuter, ne sois pas rebelle. Je suis patient, il est important que tu reviennes à moi. Donc, aujourd'hui, il est encore temps. Si tu t'es éloigné de Dieu ou si tu ne t'es jamais approché de lui, viens vite à la table des négociations avant que le jour du jugement ne vienne et que Dieu ne te frappe dans sa justice. C'est pas qu'il te frappe parce qu'il est méchant. C'est juste que quand quelque chose d'injuste est fait, que on n'a pas la correction, on se sent très mal. On est très mal à l'aise avec l'injustice qu'on voit, donc viens. Dieu te dit, viens, je ne veux pas que tu meurs. Certains connaissent peut-être ici le Nokia 3311. C'est un téléphone qui, dans la réputation, est impossible à démolir. Ézéchiel 3311, c'est Dieu qui dit, je ne veux pas que tu sois démoli. Donc retenez dans votre tête ce téléphone qui désire survivre longtemps, et dites-vous que Dieu veut que tu survives, que tu vives. Peut-être es-tu déjà venu à la table des négociations avec Dieu, et tu lui as dit, c'est vrai, tu as vaincu, et j'accepte ma défaite, et en Jésus-Christ, j'ai payé le tribut qui devait être payé. Et maintenant tu es dans la phase où tu aimerais, toi, à ton tour, inviter d'autres personnes à venir à la table de la conciliation et de la réconciliation, mais ces personnes sont un peu réfractaires, sont très difficiles, sont très rebelles à Dieu, très opposées. Et tu peux être tenté comme moi aussi, de se dire c'est bon, j'abandonne. Ça fait 5 ans que j'essaye, ça fait 8 ans que j'essaye avec cet ami, ce voisin, ce fils, ce père, je ne sais pas qui c'est. Mais peut-être que tu veux céder à l'indifférence et au découragement. C'est normal si tu t'appuies juste sur tes forces humaines, mais rappelle-toi que Dieu veut t'animer de son esprit qui est plein de patience. Donc mon encouragement, c'est ce matin, c'est demande à Dieu de renouveler ton amour envers cette personne vers qui tu veux aller pour parler de Dieu, de grâce. Quelqu'un a dit un jour qu'il y a pire que la haine, c'est l'indifférence. Si quelqu'un ne se préoccupe pas de toi, c'est terrible, plutôt que quelqu'un qui est énervé, peut-être à juste titre. Il y a encore peut-être un moyen de recoudre les choses. Dans l'indifférence, c'est que, ça y est, il est passé à autre chose. Ne soyons pas indifférents à nos voisins, les gens de notre quartier, car Dieu est patient. Mais le temps presse. Et même si les pourparlers semblent inutiles, Dieu répète, il vient, il toque à la porte, et que nous soyons aussi dans cette attitude-là, que nous soyons réencouragés par ce Dieu qui est patient et qui veut sauver. On avait dit que pour que les pourparlers fonctionnent, il y avait 2 conditions. La première, je viens de la dire, mais est-ce que vous vous rappelez la seconde? Pour que le porte-parole soit légitime, merci beaucoup. Et on va passer à la prochaine slide, merci beaucoup pour la technique qui a bien récupéré les choses. C'est que il faut que le porte-parole lui-même soit légitime. Ça veut dire qu'il représente en tout point la personne qui l'envoie. Et ce qu'on voit dans une deuxième partie de ce verset pourtant, c'est que au verset 8 notamment, on voit que Dieu met en voix le prophète en disant « Toi, fils d'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas rebelle comme cette communauté rebelle. » Ça veut dire que dans son état naturel, livré à lui-même, le prophète aurait pu avoir une tendance à imiter ses compères, les gens de son peuple. Il aurait pu être lui-même rebelle. Et c'est pour ça que Dieu doit d'abord le transformer, l'équiper pour qu'il devienne un véritable représentant. Et c'est ce qu'on va voir dans les quelques versets qui suivent, où Dieu prend la peine de répéter plusieurs fois. Ce qui est simple dans ce texte, c'est que Dieu se répète beaucoup, donc l'idée est assez simple à voir. Il nous parle de manger quelque chose, manger un livre. Ne faites pas ça chez vous, c'est réalisé par des professionnels ici, c'est surtout une image, je pense. Où Dieu lui dit, ouvre ta bouche, mange ce que je te donne. Mange ce qui t'est présenté, il le répète encore, avale ce rouleau. Et le prophète s'exécute. Il dit, j'ouvris la bouche et il me fit manger le rouleau. Et je le mangeai donc. C'est une métaphore, bien sûr, ici, qui est utilisée pour que le prophète intègre les paroles de Dieu. Et dans sa bouche, les paroles de Dieu, et que ce soit ses paroles-ci qui soient transmises à d'autres, mais non pas ses propres paroles, de son propre cru. Donc, première chose que Dieu fait pour équiper ses porte-paroles, ceux qu'il veut envoyer pour réconcilier le monde avec lui, c'est qu'il désire mettre sa parole dans leur bouche. On voit encore une autre chose, c'est que au verset 1, Dieu donne un ordre. La parole de Dieu lui est donnée. Il me dit, tiens-toi debout, car je vais te parler. Et on voit que ce n'est pas le Fils de lui-même qui fait l'effort, c'est l'Esprit qui vient l'animer afin d'accomplir ce que Dieu lui a ordonné de faire. Dès que Dieu lui a dit, tiens-toi debout, l'Esprit entra en lui et le fit tenir debout. Lorsque Dieu va lui adresser la parole, c'est l'Esprit qui rentre en lui qui lui permet d'entendre la parole. Donc une deuxième chose que Dieu fait pour équiper ses porte-paroles, c'est qu'il donne son esprit. Ce que Dieu ordonne, il équipe aussi les personnes à qui il ordonne pour qu'ils puissent accomplir cela. De sorte que ce n'est pas tant par la force de la personne qui est envoyée que les choses vont se faire, c'est par la puissance de Dieu lui-même. C'est-à-dire que ce porte-parole devient légitime parce qu'il a dans sa bouche les paroles de ce Dieu et qu'il a dans son cœur la puissance de ce Dieu. Là, c'est sûr qu'on est sur un vrai ambassadeur. Là, on est quelqu'un qui vient avec toute la puissance du Seigneur et de l'empereur qui l'envoie. D'une certaine manière, c'est comme si on était un moteur à explosion. Je ne sais pas s'il y a ici des amateurs de mécanique. Je ne suis... Oui, ah ben mince. Il va pouvoir vérifier, du coup, ce que je vais dire. Tu me corrigeras, mais un moteur à explosion thermique, a priori, fonctionne avec du carburant. C'est, on va attendre que le schéma refasse la petite boucle, mais vous allez voir une petite flèche bleue. C'est ce qu'on appelle l'admission. Restez avec moi, hein. C'est simple à comprendre. Là, c'est l'admission, c'est l'essence qui est envoyée dans une chambre. Et il y a une deuxième chose qui se passe, c'est qu'ici, à ce moment-là, il y a une petite explosion. D'où moteur à explosion, d'ailleurs. Et au fait, quand tu mets du feu avec du gaz compressé de l'essence, bon, ça pousse, vous voyez ce que c'est, une explosion, de toute façon. Ça a plutôt une énergie qui sort avec ça, comme ça. Et le fait que ça explose, ça pousse... comment ça s'appelle, ça? C'est une soupape, ça? C'est un piston. Le piston va descendre, et puis le fait qu'il remonte fait tourner un mouvement ici. Un mouvement qui vous est familier, après, puisque c'est... Ça vient embarquer la roue, et ça se met en marche. Donc, que vous ayez une 2 chevaux ou une Ferrari, c'est le même principe qui fait fonctionner, avancer la chose. Là, où je veux revenir, c'est que on est comme des moteurs à explosion, mais si on n'a pas le carburant ni la bougie qui allume, ça ne sert à rien. Et on pourrait comparer le carburant à cette parole dont Dieu nous nourrit. Donc, il faut qu'on ait tout ça. Mais ça ne suffit pas d'apprendre par cœur la Bible de A à Z. Il faut que l'esprit, comme cette bougie, l'allume. En gros, libère la puissance de la parole. Ce ne sera pas par nous-mêmes, si on peut le faire, on peut limiter pendant quelques temps, mais sur la durée, avec le marathon, il faut que l'esprit allume cette parole. Et tout d'un coup, même la petite 2 chevaux, elle peut avancer. Je pense aux premières personnes, au fait, où peut-être qu'il faut fonctionner encore avec des cochers, comme ça, à côté, il y a la première voiture, peut-être une Ford qui l'est dépassée. C'est dit, ça va vite quand même cette histoire. Parce que, alors que c'est pour nous aujourd'hui, c'est, on se dit, oh, ça va, c'est une 2 chevaux et tout. Même qu'aujourd'hui, on dit, oh là là, ça pue et tout, c'est pas électrique. D'accord. Le principe est là. Je ne sais pas à quoi ressemble ta vie. Est-ce que c'est plutôt une 2 chevaux? Est-ce que c'est plutôt une Renault Clio, une Mégane? Ou une très très belle voiture? L'extérieur n'est rien tant qu'il n'y a pas le fond, tant qu'il n'y a pas l'impact de la parole et la présence de l'esprit. Et c'est les 2 petites applications que j'aimerais nous laisser avant de conclure. C'est que Dieu nous appelle aujourd'hui, à nous qui nous sommes déjà réconciliés, à appeler d'autres à se réconcilier avec nous. Et pour que nous soyons des porte-paroles légitimes, nous devons exercer ces 2 disciplines-là. Nous devons prendre du temps dans la parole. Nous devons consacrer du temps pour manger la Bible, pour nous en nourrir. Parfois peut-être par petites phases, des petits versets ici et là, petit apéro biblique. Parfois aussi peut-être un grand repas avec le temps d'une méditation. Pourquoi pas même suivre un cours de théologie en ligne. Parfois ça aide pour avoir encore une vision. Tu savoures encore plus les choses. J'ai appris que les œnologues, par exemple, ils devinent des goûts que nous, personnes lambda, qui buvons du vin, en saisit à peu près. Mais ça s'enrichit. Donc, plus tu connais la chose, plus tu l'apprécies. Donc, est-ce que tu as ton temps avec Dieu quotidiennement, régulièrement? Parce que plus tu en prends de Dieu, plus tu seras en mesure de donner. La bouche parle de l'abondance du cœur, non? Plus tu as de paroles de Dieu dans ton cœur, plus tu te verras avoir peut-être pas le verset exact, mais ta pensée sera fortement influencée par la parole. Donc, tu veux être un porte-parole utile ou du moins légitime, nourris-toi de la parole. Prends le temps de mastiquer ce lait, cette viande, et que Dieu ait du carburant. Mais ça ne suffit pas que nous puissions aussi quotidiennement prier afin que nous laissions la place à l'esprit. La parole nous dit n'éteignons pas l'esprit, donc c'est une invitation à lui laisser la place en disant je vais agir là, mais c'est toi le boss, Saint-Esprit. Vas-y s'il te plaît. Aide-moi à exercer au quotidien la parole. Que lorsque je lis dans ta parole que il faut que j'aime mon ennemi, que ce ne soit pas moi qui le fasse. Que ce soit toi qui me fasse tenir debout face à cet ennemi et qui l'apprenne à l'aimer. Que ce soit toi, Saint-Esprit, qui m'aide à produire ton fruit, le fruit que Dieu recherche, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi. Saint-Esprit, s'il te plaît, je ne suis que le vase, mais le trésor et la puissance, c'est toi. Viens appliquer cela dans ma vie, de sorte à que les autres voient soudainement ce trésor en disant, mais lui, c'était juste un vase tout tout pourri, mais qu'est-ce que c'est précieux s'il y a en lui. Et c'est même un encouragement à être honnête avec les gens qui sont autour de nous, de nos propres faiblesses. Parce qu'il y a un principe avec Dieu. Plus on est faible, plus on le voit lui. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens lorsqu'il dit « Ah, je suis très très fier de mes faiblesses et de tout ce qui en moi est faible, parce que quand je suis faible, c'est alors que Dieu est fort. » C'est un encouragement à être vulnérable finalement. Et peut-être que le meilleur témoignage auprès de nos amis, c'est pas de se dire « Oh regarde, j'ai eu un nouveau boulot, une nouvelle voiture, une nouvelle maison. » Mais de se dire « Écoute, j'ai galéré, j'ai perdu mon travail, un proche de ma famille est malade, mais Dieu m'a réconforté. Mais Dieu a pourvu à ça. » Et soudainement, la caméra, elle est plus sur toi, elle est sur Dieu en disant « Waouh, sa vie est dure, mais il y a une puissance qui vient la nuit. » Donc que nous puissions laisser l'Esprit allumer ces lampes que nous sommes et que cela soit la gloire de Dieu. Et j'aimerais conclure en nous rappelant juste que Dieu est un Dieu très patient qui désire se réconcilier. Rappelez-vous du mot qu'il y a 33:11, il ne veut pas que nous soyons démolis. Et Dieu est patient même si l'homme ne veut pas l'écouter. Et c'est pour ça que dans son amour, Dieu n'a eu de cesse d'envoyer ses porte-paroles pour appeler ses ennemis à la réconciliation. Et c'est aussi la raison pour laquelle il s'est incarné en un homme pour venir au milieu de ses ennemis. Et afin que ce porte-parole-là puisse être un médiateur, il précède un peu le jugement de Dieu. Et il vient dire aux hommes, soyez réconciliés. Et ce Jésus-Christ que Dieu a envoyé, qui était son porte-parole idéal, son représentant idéal, puisqu'il était la parole incarnée, animée de la puissance de l'Esprit, ce Jésus-Christ-là aussi désire utiliser ceux qui le suivent à se réconcilier avec Dieu. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous donc, nous faisons office d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice pour Dieu. Nous donc sommes les héritiers de ce ministère de réconciliation. Nous sommes les porte-paroles inutiles, mais utilisées par Dieu, afin de parler à nos contemporains. Ne soyons donc pas indifférents, mais nourrissons-nous de la parole et laissons l'Esprit la transformer en acte, en nous. Et je vous invite à incliner nos têtes en prière pour implorer Dieu pour cela. Père, merci de nous avoir sauvés dans ton temps de patience. Tu aurais pu venir depuis longtemps déjà et alors nous aurions souffert éternellement loin de toi. Mais tu as décidé que tu voulais nous sauver et dans ta grâce tu as patienté et tu as été patient en envoyant vers nous des pasteurs, des amis de la famille afin que nous te connaissions. Et désormais tu nous passes ce ministère de la réconciliation, tu fais de nous des porte-paroles. Oh, aide-nous Père à être des porte-paroles légitimes et qui te représentent à juste titre. En nous imprégnant de ta parole et surtout en laissant ton Saint-Esprit la transformer en acte en nous. Et tout ceci afin que les gens voient ta gloire et te glorifient des bonnes œuvres que nous aurions produites devant nous. Aide-nous, Père, dans notre faiblesse et que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Je prie, Amen. Merci beaucoup de votre attention et Paul, je te recède la parole.